CFORadio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFORadio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CFORadio-TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Jean-Philippe Boringer, directeur général du groupe JPA, présent dans 80 pays, et Antoine de Vulpilière, sales manager chez EPSA. Bonjour messieurs.
Bonjour Richard.
Aujourd'hui, nous recevons Sonia Rougès, DAF de Takeda. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Alors, vous êtes franco-espagnole, vous êtes née au Pays Basque et vous vous orientez vers le monde de l'entreprise. Vous démarrez à la Française des Jeux. Quel était votre rôle ?
C'est bien ça. Donc, j'étais contrôleur de gestion internationale. C'est-à-dire qu'à l'époque, la Française des Jeux avait des ambitions d'investir, que ce soit en Asie ou bien en Allemagne, soit sur des activités de loterie, soit sur la vente de matériel de loto.
Et c'est pas évident parce que chaque pays a ses propres particularités en termes de jeu.
Exactement. Par exemple, donc en Chine, les lots ne sont pas des lots, on va dire, monétaires, mais vous gagnez un vélo, un frigo.
Un an plus tard, vous débutez votre parcours dans l'industrie pharmaceutique en contrôle de gestion.
Oui, c'est bien ça. J'ai démarré un parcours classique en contrôle de gestion, contrôleur de gestion junior, senior, contrôleur financier, puis après sur des postes de direction financière.
En 2005, vous entrez dans le groupe Galderma. Sacrée expérience, vous y restez 14 ans, notamment en joint venture avec L'Oréal et Nestlé, je crois, c'est ça ?
C'est tout à fait ça. Donc Galderma, effectivement, une très belle société, donc un laboratoire pharmaceutique qui était dédié à la dermatologie. Et sa spécificité, c'était d'être détenu à la fois par deux acteurs de référence à 50%, qui étaient L'Oréal et Nestlé.
Alors, dermatologie et Nestlé
Exactement. Donc, pour L'Oréal, donc, c'était vraiment un investissement dans un secteur d'activité qui aujourd'hui existe encore chez L'Oréal avec un certain nombre d'activités chez eux. Et pour Nestlé, c'était plutôt un investissement, on va dire, financier, puisqu'aujourd'hui, Nestlé, enfin, comme beaucoup de grands groupes, avait décidé, on va dire, de diversifier ses investissements.
Alors, jusqu'au départ de Nestlé, parce que finalement, ils ont décidé de partir.
En fait, d'abord, Nestlé a décidé de racheter Galderma à 100% en 2014, puisque entre les deux CEO, ils pensaient qu'entre la peau et la nutrition, il pouvait y avoir une idée, il pouvait y avoir un concept. Concept qui finalement n'a vraiment pas abouti, puisqu'entre-temps, un certain nombre de changements à la tête de chacune des sociétés. Et finalement, Galderma a été cédé à un fonds de private equity.
Et c'est à ce moment-là que vous en partez ?
Exactement.
Et donc, vous arrivez chez Takeda. Alors, tout le monde ne connaît pas, il faut nous expliquer.
Donc, Takeda est un laboratoire pharmaceutique. C'est un laboratoire d'origine japonaise qui a plus de 240 ans. Et donc, la spécificité, c'est que Takeda, en 2019, a racheté un laboratoire de même taille, qui s'appelle un laboratoire américain, Shire, avec donc une très grande intégration qui a eu lieu sur l'année fin 2019 et 2020.
Pas facile, c'est quand même deux cultures très différentes.
Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au-delà des cultures, c'était vraiment deux laboratoires qui étaient organisés de manière très différente. Takeda avec une philosophie, c'est-à-dire d'accorder une certaine autonomie à ses filiales dans l'ensemble du monde, alors que Shire, une société américaine, cotée en bourse aux États-Unis et avec un mode opérationnel de globalisation et puis très drivé sur la performance et sur la croissance du chiffre d'affaires. Donc effectivement, un choc des cultures.
Allez, Jean-Philippe.
Alors oui, une première question. Donc vous, en France, vous êtes en charge du reporting européen. Comment ça se passe ? Comment c'est organisé au
Alors,
niveau
donc, mondial ? Moi, en France, donc aujourd'hui, j'ai un rôle de directrice administrative et financière. Donc je supervise la finance, la supply chain et les services généraux. À savoir la spécificité de Takeda, qui aujourd'hui est quand même un grand groupe. C'est un groupe aujourd'hui de 55 000 personnes et qui fait plus de 30 milliards de chiffre d'affaires. Et du coup, avec une mise en place des centres de services partagés qui aujourd'hui sont localisés en Pologne et en Irlande.
D'accord.
Donc moi, aujourd'hui, je n'ai plus de service comptable à côté de moi. L'ensemble des équipes comptables et transactionnelles sont délocalisées en Pologne, essentiellement.
D'accord. Et la gestion de la trésorerie, elle se passe comment ?
La gestion de la trésorerie, donc pour le coup, elle se passe également en Pologne. Et donc effectivement, aujourd'hui, c'est un profil de directeur financier que vous pouvez retrouver dans les grands groupes où c'est intéressant parce qu'on a une vue très large et en même temps, il peut y avoir un côté un petit peu compliqué à gérer et beaucoup de coordination avec les centres de services partagés, d'autant plus que l'ensemble des process sont très très découpés dans les centres de services partagés.
Merci. Et comment se porte votre polonais ?
Alors, mon polonais reste pour l'instant à l'anglais.
Pas évident, Antoine.
En fait, ma question rejoint un petit peu cet aspect très international de votre organisation. Donc, il y a une société japonaise avec un siège international en Suisse, des centres de services partagés en Pologne, vous en France. Est-ce que les aspects culturels sont importants et quelles sont les spécificités dans vos relations avec vos homologues à l'étranger? Ou est-ce que les chiffres, finalement, c'est la langue universelle?
Alors, je dirais que les chiffres sont la langue universelle. Après, il n'y a pas vraiment, on va dire, de culture japonaise au quotidien ou américaine. Je dirais que c'est plutôt la culture de la globalisation. C'est-à-dire que, comme vous l'avez très bien mentionné, aujourd'hui, j'ai des collègues, j'ai donc des parties prenantes de mon organisation qui sont vraiment localisées partout dans le monde. Et la localisation, en soi, n'est plus un problème. Et la langue de travail est vraiment l'anglais. Et aujourd'hui, les enjeux de la fonction finance, c'est vraiment de finaliser cette intégration, de faire monter en puissance les centres de services partagés et aussi d'harmoniser un certain nombre d'outils qui, pour l'instant, étaient encore le reflet de chacune des organisations, Shire et Takeda.
Ok. Merci. Et puis, une autre question qui est plus liée à votre secteur d'activité. On sait, et d'ailleurs, on le sait d'autant plus avec l'actualité, que développer un traitement, ça prend du temps, ça coûte beaucoup d'argent, donc les revenus ne viennent pas forcément tout de suite. Comment ça se gère par rapport à la fonction de DAF dans d'autres secteurs où les modèles économiques sont différents? C'est le même métier, DAF dans la pharma et DAF ailleurs?
Et effectivement, l'enjeu aujourd'hui de l'industrie pharmaceutique, c'est vraiment de s'assurer qu'on ait ce qu'on appelle des produits dans le pipe, c'est-à-dire que la recherche et le développement, à un moment donné, amènent des produits sur le marché quand on sait que les cycles sont au-delà de 10 années et ensuite qu'on a quand même une perte du brevet qui peut arriver très très vite. Donc, quand on est DAF comme moi dans une filiale, donc une filiale de marketing-vente, là, l'objectif, c'est vraiment de s'assurer de la maximisation des revenus et ce qu'on appelle une courbe de ramp-up qui soit très très rapide. D'accord. Ensuite, quand on est contrôleur de gestion ou un directeur financier en R&D, là, les enjeux, c'est vraiment de s'assurer que les molécules passent les différentes phases d'homologation pour s'assurer qu'au niveau du groupe, le niveau de risque soit mitigé et qu'à un moment donné, on ait vraiment des relais de croissance au niveau du groupe.
Sonia, le plus beau métier du monde, c'est quoi? C'est pharmacienne ou CFO?
Ça dépend des jours.
Allez, aujourd'hui, par exemple.
Aujourd'hui, je dirais pharmacienne. Alors effectivement, pourquoi aujourd'hui? Parce que dans le rôle de pharmacien, et encore plus ces derniers mois, ces dernières semaines, il y a vraiment eu du côté du pharmacien un accompagnement, un rôle, on va dire, très citoyen d'accompagner l'ensemble de la population par rapport à toutes ces problématiques, toutes ces inquiétudes du Covid. Et puis, c'est un rôle qui aujourd'hui est très concret. Finalement, on côtoie au quotidien une population très, très variée avec un certain nombre d'enjeux.
C'est vrai. Vous-même, chez Takeda, d'ailleurs, vous participez un peu à tout ça sur le Covid?
Oui, alors aujourd'hui, donc Takeda...
À la lutte, évidemment.
À la lutte, effectivement. Lorsque la pandémie a démarré, tout de suite, Takeda a monté une coalition avec d'autres laboratoires, puisque Takeda, dans sa gamme de produits, a des produits ce qu'on appelle dérivés du sang. Et donc, l'idée, c'était de voir si les patients, justement, qui avaient été qui avaient bénéficié de ces produits, développaient, on va dire, une protection par rapport au Covid. Finalement, les premières études cliniques n'ont pas été concluantes.
Célestine Dubac de Tatiana de Ronay, un de vos livres, on va dire que un des derniers que vous ayez aimé. Pourquoi vous êtes une fan de Zola?
Alors, premièrement, pendant le Covid, justement, je me suis remis à lire pour essayer de sortir un petit peu de l'écran. Voilà, ça permettait de...
C'est pas idiot.
Ça permettait de se projeter dans un environnement différent. Et puis, pourquoi j'ai aimé ce livre? À la fois parce que l'environnement, c'était Paris. Donc voilà, et moi, étant provinciale, j'aime bien quand même cette ville. Ensuite, deux personnages très, très différents avec des vies et des destins très différents. Donc, et en même temps, très attachants.
Un milliardaire et une SDF, hein, c'est ça?
C'est un peu ça, oui. Et puis, en même temps, sur les dernières pages, une dimension assez féerique avec les dons que Célestine a pu transmettre.
C'est gentil de raconter la fin.
Et voilà, donc une façon de sortir un petit peu du quotidien et d'aller chercher un peu d'enchantement dans la littérature.
Ça fait du bien. On va rester pour terminer dans l'enchantement. Vous êtes plutôt cuisine méditerranéenne, je crois. Votre spécialité, ce serait quoi?
La paella, bien sûr.
Évidemment, vous avez un secret?
Non, je ne les donne pas.
Bon, bah tant pis. Merci Sonia, merci également à vous Jean-Philippe et Antoine, fans de ce numéro de CFORadio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook, bien sûr. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour un nouvel invité.
L'invité de la semaine de CFORadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.